Le souffle des vivantes. Salut, c'est Lucie Joy. Je suis artiste, j'écris, je chante, je prends la parole. Et aujourd'hui, je la donne. Grâce au souffle des vivantes. Un podcast qui vous est proposé par Cité Carter et Radio Campus Amiens. Et aujourd'hui, on écoute l'épisode « Les femmes à la cuisine ». Pour cet épisode, j'ai rencontré quatre femmes. Toutes les quatre d'âges différents, de pays différents, mais toutes les quatre mamans, et aussi filles, et aussi femmes. Et elles ont beaucoup parlé de leur rapport à leur féminité et surtout à leur maternité. Et c'était très intéressant, surtout que moi, j'ai pas d'enfant. Et il y a eu un vrai échange intergénérationnel de points de vue. Et c'est pas toujours ce qu'on croit. J'ai appelé cet épisode « Les femmes à la cuisine » en hommage à une chanson d'une amie qui s'appelle Nawal Dombrowski. Parce que cette réunion a eu lieu dans une cuisine. Et d'habitude, les femmes à la cuisine, c'est pour dire que les femmes, elles sont là pour se mettre au service de la famille en travaillant, avec le travail domestique qui n'est pas rémunéré. Et là, on a pris cet espace et ce temps simplement pour elles. Et donc, j'aimais bien ce retournement-là. Et c'est aussi l'idée que quand on met plusieurs femmes dans une seule pièce, ça devient un conseil. Il y a vraiment cette idée de... Il y a vraiment besoin de partager. On vous a réunis ici, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes toutes exceptionnelles et que vous avez tout un parcours de vie qui peut être inspirant et intéressant pour d'autres personnes. Alors, je veux bien que vous présentiez, si vous voulez bien.
Oui, moi, c'est Anissa. Voilà. J'ai 42 ans, je travaille dans la culture et je suis mère, fille et femme.
Waouh.
Merci.
Donc moi c'est pareil, je m'appelle Leïla, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis fonctionnaire de police et j'espère retrouver ma forme pour redevenir vraiment, reprendre ma place en tant qu'instructeur de capoeira. Voilà, parce que dans la capoeira, c'est plutôt un monde d'hommes, et donc c'est très difficile de s'affirmer. Et encore plus là, le fait que je me suis un peu éloignée à cause de ma grossesse, de mes grossesses. Donc voilà, j'aspire à beaucoup plus dans l'art, dans la culture, dans la capoeira carrément. Donc, voilà.
Moi c'est Jennifer, j'ai 39 ans, donc je travaillais aussi dans la fonction publique. J'ai 3 enfants, et je suis plutôt du genre instable. Mais dans le sens, j'aime bouger, j'aime pas être fixe, garder les mêmes choses trop longtemps. Donc voilà, donc ma vie c'est un peu un fleuve.
Alors moi c'est Aouda, je vais avoir 65 ans, j'ai eu 5 enfants, je suis grand-mère d'une petite fille de 11 ans. Je suis secrétaire médicale pour 5 médecins, une podologue. Divorcée après 31 ans d'années de, on va dire, un petit peu de galère, de souffrance. Et chaque année, j'essaye de me retrouver. Je ne me suis pas encore retrouvée, malgré ce temps qui court. Voilà, quoi.
Tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant, je peux le répéter ?
Vas-y.
Tu m'as dit, avant d'être une femme, je suis une mère.
Tu te lèves, tu penses à ça. La première chose que tu te lèves, c'est « Ah, faut que j'aille réveiller les enfants. » Tu vois. Avant même de te dire « Je vais passer par la salle de bain, je vais prendre mon petit-déj, hop, c'est vite. Faut que j'aille. Est-ce qu'elle a préparé ses affaires? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» C'est toujours comme ça. Tu te couches, le dernier truc que tu fais, tu regardes le planning de l'école pour le lendemain. Pour savoir si t'as rien oublié. Donc en fait, c'est 80% de notre vie, si ce n'est plus en fait.
Je dirais beaucoup plus.
Ouais, ou plus. Mais parce que je me dis, oh, laisse-moi mes 20%. j'ai quand même 20%.
Et c'est quoi alors les 20%?
Les 20%, c'est aller bosser déjà. Ouais. C'est ta carrière professionnelle. Parce que je pense qu'ici, on a tous mis notre carrière professionnelle, entre parenthèses, pour nos enfants. À un moment donné de notre vie, on s'est dit, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc tu renies ta carrière pour t'occuper de ton enfant, en attendant qu'il grandisse. Puis une fois qu'il grandit, tu dis, ah, ça y est, je peux reprendre ma carrière. Mais en même temps, tu vieillis. Donc tu as plein de choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues. Mais les 20%, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le travail. Et après, tu essaies d'avoir une vie de femme, de conjointe, etc. Et il reste peut-être 1% où tu penses à toi. Et ces 1%, c'est le gynéco, la mammo, c'est tout ça. Tu vois ?
De toute façon, une fois que tu as ton premier enfant, c'est fini.
Ah oui.
C'est fini. C'est... Mmh. Anissa disait 80%, moi je dirais 100%. Mmh. Et voilà. C'est tout le temps, tout le temps. Tu travailles, tu as tes enfants, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils vont là. Mmh. Et oh là là, il va quitter, qu'il va bien traverser, il va. Tout le temps.
Donc il y a une forme d'angoisse un peu permanente, j'ai l'impression.
Ah bah, ton enfant, c'est ça.
Être mère, c'est angoissant.
Dès qu'on te dit, t'es enceinte, c'est fini, il y a plein de...
Et vous vouliez des enfants ?
Oui, je voulais des enfants.
T'en voulais pas 5 ? Mais...
Non, j'en voulais pas 5. Non, j'en voulais pas 5, mais bon, moi, déjà, à la base... C'est ma famille qui m'a mariée. J'ai vu mon mari le jour de mon mariage. Donc après, c'était faire des enfants. Je pouvais travailler entre deux. Puis après, quand l'enfant il avait plus de couche, et puis allez, le mari, il faut faire un deuxième. Moi, il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de stérilet. Donc il fallait faire des enfants, il fallait...
Si, il y en avait, mais tu n'avais pas le choix.
Oui, non, j'avais pas le choix, c'est ce que je dis, pas de pilule. Et puis le fait aussi que quand j'avais des enfants, j'étais à la maison, je ne pouvais pas sortir. Donc c'était un...
Le moyen de garder
la femme à la maison. Parce que partais travailler, j'avais les enfants en bas âge, j'avais de quoi m'occuper. Sur tout ça.
Wow, ok. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez dit « je veux des enfants » ? Est-ce qu'il y a eu un moment
qu'on voulait des enfants ? Je vais dire la vérité.
Ouais, carrément.
Quand je me suis mariée, c'était mon médecin, docteur de la Seine, il m'a toujours dit que c'était pour m'échapper. Ouais. Tout de suite, je voulais un enfant. Je me cachais derrière mes grossesses.
Tu te cachais de ton mari, tu veux dire,
Oui, de la situation. Tout ce qui englobe, tout ce qui...
Je me cachais derrière. D'autres vies, voilà. Sa vie, c'était ses enfants. Voilà. En fait. Et dès qu'on grandissait, il y en avait un autre. Parce qu'en fait, c'était que son rôle. Son rôle, c'était ça.
Moi, tu vois, j'ai pas d'enfant, donc forcément, j'ai une vision. À la fois, je suis pas sûre d'en vouloir un jour.
Ma première grossesse, ça a été vraiment une catastrophe. J'ai fait que pleurer. Je pouvais même pas me confier à ma mère, parce qu'on était en froid à ce moment-là. C'était assez compliqué ma première grossesse.
Et par exemple, au niveau des règles, tu vois, de la puberté, comment ça s'est passé ?
Ah, forcément. Je l'ai appris en allant, je l'ai découvert en allant aux toilettes. Et puis, et ma mère a dit, c'est normal. Puis elle m'a donné une serviette. Et puis après, elle m'a juste dit que ça revenait tous les mois. Et puis voilà.
Ok.
Mais c'était assez compliqué parce que moi, à mon époque, la douleur n'était pas prise en charge. Et du coup, moi, à chaque fois, à chaque cycle, j'étais pliée en deux, je pouvais même pas aller à l'école. Et du coup, ma mère, elle me forçait, elle me disait que c'était honteux, il fallait pas que je dise à mon père que j'avais mes règles, que voilà. Et quand mon père me disait, qu'est-ce que t'as, t'es malade, tu te sens pas bien, mais j'étais vraiment pliée en deux, je vomissais, je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher. Donc c'était à lui de m'emmener à l'école, c'était pour mon premier jour de règles. Alors voilà, j'étais partagée entre expliquer à mon père que j'avais mes règles ou me taire comme ma mère m'avait demandé de me taire. Donc non, c'est assez compliqué.
Ouais, tu vois, moi, c'est plus vieux que toi.
Ouais.
Et par contre, ma maman, c'est elle qui m'a appris. Et le jour où ça m'est arrivé, je me souviendrai toujours, j'avais 16 ans. Et elle m'a expliqué avec une délicatesse, avec une gentillesse, avec une... Jamais j'oublierai ce moment-là. C'est gravé. Et ça a été très, très doux, très, très...
Ouais, comme quoi c'est pas qu'une question d'époque.
Non.
Toi tu viens de quel pays ? Ta maman elle était de quel pays ?
L'Algérie.
Pas le même pays.
Moi j'ai pas de souvenirs de ça.
Bon.
Je me souviens juste, je les ai eus dans le bus, je suis rentrée et je me suis changée.
Parce que t'avais des cousines plus grandes que toi et puis que tu savais déjà.
C'est vrai ça, d'avoir des grandes sœurs ou des cousines. Vous avez des grandes sœurs ou des cousines plus grandes ? Non.
Par contre, quand elle me l'a dit, j'ai pleuré.
Ah oui, t'as pleuré, pourquoi ?
J'ai pleuré parce que j'avais la sensation d'avoir perdu ma fille. C'est peut-être bête, hein. Mais j'ai eu un tel chagrin que ça m'a brisée. Je l'ai mal pris, ça m'est arrivé. Donc voilà, je savais très bien que ça allait lui arriver, mais je l'ai mal pris.
Est-ce que vous avez des amis qui n'ont pas d'enfants ?
Oui.
Ouais, moi j'en ai plein. J'ai une collègue, mais...
Et alors ?
Elle a 45 ans, non, elle n'en veut pas. Elle est fille unique, hein. Elle n'en veut pas.
Mais quand vous parlez avec les gens qui n'ont pas d'enfants, est-ce que des fois vous dites « Non, mais ils ne comprennent pas » ou
« Non. »
Vous dites quoi ?
Non, après c'est de leur faire... En fait, je pense que c'est eux qui ont plus de mal à comprendre le fait qu'on ait des enfants. Parce que, ah oui, bah là on va boire un coup, tu vois.
Ils ont pas de même rythme.
Et toi tu dis, bah non, mais moi j'ai ma fille. Donc si tu me préviens pas une semaine avant pour que je m'organise, c'est pas la peine. Me le dis même pas. Et je pense que c'est eux qui ont l'impression de... En fait, c'est surtout les personnes que t'as connues avant d'être mère. Et quand tu deviens mère, ils trouvent qu'en fait...
T'as changé.
Tu penses plus à toi. Moi j'ai une amie qui m'a dit ça, mais pense à toi. Oui, mais je pense à moi, mais différemment. Moi, penser à moi, c'est... le soir, je suis couchée, c'est cool, je peux regarder mon film tranquille. Toi, je peux me faire mon masque, faire mes cheveux. Tu vois, ça, c'est déjà... Ça, c'est penser à moi, me retrouver toute seule.
Moi, quand j'étais enceinte de mon premier, je voulais pas d'enfant. Pas du tout. Je voulais être journaliste et je voulais voyager. Donc, en plus, je voulais me disputer avec le papa. Donc, je me suis dit, bon... Bah c'est tout, je sais pas du tout comment on fait pour avorter, je connaissais pas du tout, j'avais jamais été confrontée à ça, j'avais jamais eu de copine confrontée à ça. Et du coup je me suis dit je vais aller voir, je venais d'arriver sur Amiens, je me suis dit je vais aller voir un médecin, et puis je verrai ce qu'elle me dit. Et du coup mon mari m'a accompagnée en faisant la tête en fait, il me dit je sais pas, j'espère que tu sais ce que tu fais. Bah, je me dis, normalement on est deux. Je sais pas, c'est tout. Si on se dispute comme ça, ce sera rien de continuer. Déjà entre nous deux, donc l'enfant, voilà. Et donc je vais pour voir le médecin que je connaissais pas du tout. Et elle était vraiment elle était super contente pour moi. Elle m'a même pas laissé remplacer une. Elle m'a sorti le petit classeur rose. des femmes enceintes. Elle m'a sorti plein de petits échantillons. Elle m'a expliqué comment ça allait se passer, etc. Mes yeux, ils ont fait bling bling. Ils ont brillé. Je me suis dit, waouh, puis j'ai laissé parler, qu'elle était tellement contente et tout. Et puis, on est sortis de là avec plein de dates, plein de rendez-vous. Et puis voilà, on est remontés dans la voiture. Et mon mari me dit, à quel moment t'as parlé de l'avortement? Et donc, je l'ai regardée et je lui ai dit, écoute, elle était tellement contente qu'elle m'a vraiment donné envie de le garder. Et j'ai vraiment envie.
C'est lui qui l'a sauvé.
Tu lui diras ça. En fait, c'est une dame.
Dans un pays où l'avortement est inscrit.
Ouais. Et alors, c'est quoi les solutions pour vous ?
Déjà, il faudrait que les femmes, quand elles sont dans les magazines, etc. En fait, c'est ça, on est dans une société patriarcale où on montre la femme objet dans les magazines. Elle est toujours sexy. Si jamais il y a un petit brûlé, bon, de toute façon, on l'efface avec Photoshop. Elle est tout le temps parfaite. Donc, tant qu'il y aura ces choses-là, ces clichés, ces critères de beauté pour la femme, en fait, on sera toujours qu'un objet dans la société. Les métiers, la plupart du temps, les femmes, elles n'ont pas... Pour avoir un poste à responsabilité, il faut vraiment qu'elles travaillent 10 fois plus.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à toi.
Comme quoi, la prochaine fois que vous voulez passer une soirée entre copines, vous dites que vous faites un podcast, même si ce n'est pas vrai.
Si je devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait l'importance... de parler avec nos mères, nos grands-mères, nos filles, nos petites-filles, de se parler entre nous, même avec des amis de tout âge, parce que on a beaucoup d'a priori sur ce qu'ont vécu nos ancêtres ou ce que vont vivre les générations suivantes, mais en réalité, en échangeant, on a beaucoup de choses à s'apprendre. C'était Les femmes à la cuisine. Un épisode du podcast Le souffle des vivantes, proposé par Cité Carter et Radio Campus Amiens. À bientôt pour un prochain épisode. Ah, si seulement j'avais su ce qui...